Les Agités du Mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les Agités du local du mois.
Cette semaine, on vous propose de découvrir la réserve du Musée des sciences de Laval. Inaccessible au public, nous avons pu bénéficier d'une visite un peu privilégiée des quelques 130 000 pièces conservées dans cette réserve, entre fossiles de plusieurs milliers d'années, minéraux et animaux naturalisés. Notre guide, c'est Roch-Alexandre Benoît. Il est assistant de conservation du patrimoine au Musée des sciences.
Alors là, on est dans un bâtiment qui s'appelle le Musée des sciences et en fait, on est dans les sous-bassements du bâtiment. Il y a vraiment toutes les collections en fait, du musée qui vont être présentes ici. Donc ça représente près de 130 000 à 150 000 pièces. Alors c'est pas nous qui les avons réunies, mais ça va être différents donateurs qui vont avoir fait ces dons-là à travers les années. Et la plus grosse partie des collections, à savoir surtout d'ailleurs les fossiles, ont été amassées à la fin du 19e ou début 20e, surtout fin 19e, par du coup le couple Daniel et Pauline Euler, qui étaient donc les premiers conservateurs, on va dire, du musée. La plus grosse partie a été ramassée à ce moment-là, donc soit directement par les Euler, soit par des personnes qui leur ont envoyé des spécimens pour les étudier, ou des échanges vraiment standards là-dessus. Mais sinon, il y a encore des donateurs après coup qui ont donné justement des parties de collection, comme par exemple les collections d'insectes, d'autres parties de collection de fossiles. On a des choses qui viennent du musée de Vitré aussi, qui ont été ramenées ici. Globalement, c'est rangé par type de collection. Il va y avoir des meubles où il va y avoir vraiment que des espèces naturalisées, par exemple. Donc un meuble pour les mammifères, des meubles pour les oiseaux. Il va y avoir les collections de minéralogie également, qui vont être dans des vitrines vraiment pour elles. Il va y avoir les collections de paléontologie qui prennent la majeure partie de la place et qui, elles, vont être un peu présentes partout dans les collections, mais dans des meubles avec des noms et des numéros. Donc comme ça, on peut les repérer. Dans les minéraux, on a près de 3000 échantillons en tout, donc des plus ou moins petits et vraiment des choses assez grosses. Le but, c'était d'avoir vraiment une idée de tous les minéraux qu'on peut trouver, notamment en Mayenne, mais il y a aussi des choses qui viennent de plus loin. Donc là, par exemple, on a un fragment de roche qui vient donc de la mine de la Lucette et en fait qui va contenir quelques petites paillettes d'or. Ça existe et on sait qu'il y a eu de l'or du coup à cet endroit-là. De la Lucette, on va également avoir des échantillons plus gros qu'on va appeler de la stibine. Donc c'est un composé d'antimoine qui sert à la fabrication de diverses choses comme les plaquettes de frein ou certains explosifs. Et cette mine de la Lucette justement était très connue à la fin du 19e et début 20e et qui a été très très exploitée pour la stibine puis pour l'or. Après on va voir pas mal de choses. On a par exemple là du soufre qui vient donc de Sicile. Et du coup, quand on peut faire des expositions autour des minéraux, c'est toujours bien de pouvoir présenter ce genre de pièces. Ça donne vraiment un aperçu de ce que c'est. Jaune fluo, on ne peut pas le rater dans la collection celui-là. Alors le reste, on a des collections de mammifères, on a des collections d'oiseaux, on va avoir des squelettes également. Donc on a des singes, on va avoir des mâchoires de requins aussi. On a des coraux également. On a des têtes de certains mammifères qui sont assez particulières. On a également des collections techniques. Donc ça peut aller des vélos jusqu'à des appareils de mesure physique plus ou moins récents. Ça peut être très ancien, puis des choses qui vont avoir jusqu'à 40-50 ans maintenant. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Et on s'intéresse demain plus particulièrement aux fossiles d'animaux très présents de la réserve du musée puisqu'ils représentent à peu près la moitié de la collection. Think it would be like this when we grow old. Will we still have to hide our kiss? I wanna have a child. Though I still need someone to guide me, I want a peaceful life. Avec une collection plutôt locale, explique Roch-Alexandre Benoît, l'assistant de conservation du patrimoine au Musée des sciences.
Alors on peut retrouver beaucoup de choses, une grande partie qui vient de la Mayenne à la base, donc ça va être des groupes comme les brachiopodes, donc c'est des choses qui ressemblent un petit peu à des bivalves, on va dire les moules et les huîtres, mais c'est pas le même groupe, ça y ressemble seulement. Mais là ça se trouve encore actuellement dans les mers assez profondes, mais là les spécimens qu'on a nous en fossiles, ça peut aller jusqu'à 300 et quelques millions d'années. Dans celui-là il y en a, dans celui derrière il y en a un peu partout des brachiopodes. Alors là c'est un meuble où on a essayé de mettre toutes les ammonites qu'on avait, enfin un maximum d'ammonites qu'on avait en collection, parce que clairement ça passait pas tout ici, et de vraiment les organiser par étage et plus ou moins par groupe. Donc là par exemple, donc on a des ammonites vraiment là qui viennent de l'Alénien. Là on a essayé d'extraire tout ce qui était plutôt nautile, qui était mélangé finalement avec les restes des ammonites, mais qui sont un groupe un peu voisin des ammonites. C'est pas tout à fait des ammonites, mais voilà, c'est, visuellement ça y ressemble beaucoup. La différence en vrai est assez simple une fois qu'on la connaît. En gros ça va être sur une structure complètement. Donc là si on prend une ammonite, on regarde en fait sur la coquille et on va voir là ici en fait comme un découpage en fait qui ressemble à une feuille. Quelque chose de très très découpé, très marqué. Et en fait ça va être la démarcation d'une loge dans une ammonite. Mais en fait, dans un nautile, il va y avoir la même chose, sauf que au lieu d'avoir quelque chose de très très découpé, ça va être quelque chose de très droit comme ça, très linéaire. Et donc ça c'est un moyen sûr de savoir si on a affaire à un nautile ou une ammonite. Après, les nautiles, c'est pas fréquent. C'est pour en trouver, nos professeurs sur certains sites nous disaient, en gros, vous allez trouver un nautile pour 1000 ammonites. Donc après, ça dépend vraiment des endroits, mais globalement, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare que les ammonites. Bah, les nautiles, en fait, ça existe encore maintenant, mais c'est vrai que c'est pas très très fréquent d'en voir. C'est même quasiment rare, enfin vraiment impossible. Les ammonites, elles ont complètement disparu, mais à l'époque, c'était un groupe qui était très très présent. Donc l'époque, c'est le Mésozoïque. Donc c'est entre 250 millions d'années, à peu près 230 millions d'années on va dire, jusqu'à 66 millions d'années. Mais après 66 millions d'années, il n'y a plus du tout d'ammonites. Au moins on sait que voilà, il y avait ces choses-là qui existaient dans les mers et voir toute la variation de forme en fait que ça a pu avoir. Après les ammonites, c'est un groupe qui est très utile pour la datation aussi. Parce que vu qu'il y a justement un grand nombre d'espèces, et généralement une espèce va être présente sur un temps entre guillemets assez court, à l'échelle géologique, donc ça va être proche de 100 000 ans. Mais en fait, c'est dès qu'on va retrouver cette espèce-là, on sait qu'on est dans cette tranche d'âge-là.
Et donc, comment dater un fossile? Une question pas simple, pas évidente en tout cas de l'extérieur. Et ce sera justement le sujet de l'épisode de demain. Myself that well, I didn't wanna know. Safe and sound in a shell, I was a happy child. A little puzzled and confused, but when the word came out. Plus de la moitié de la collection, on en a parlé hier, ce sont des fossiles, mais plusieurs techniques existent pour connaître leur époque. Écoutez.
Le groupe ammonite en soi, ça a une grande durée d'existence. Chaque espèce, après, justement, ça va être. Ça dépend vraiment des espèces. Mais il y en a qui vont descendre jusqu'à globalement 100 000 ans d'existence. Ce qui en soi est très court. Nous, par exemple, en tant qu'Homo sapiens, ça fait 200 000 ans qu'on est là. Il y a plein d'espèces où ça tourne autour d'un million d'années, on va dire en gros. Donc là, 100 000 ans, ça fait très très court pour une espèce finalement. Mais au moins, voilà, ça permet d'avoir une idée très précise en fait de la tranche d'âge dans laquelle on est. Ça peut servir pour les autres fossiles. Globalement, ceux qu'on va retrouver en fait dans la même couche, on sait qu'ils vont être à peu près du même âge. Si on retrouve des fossiles dans une couche un peu au-dessus, on sait que globalement, ils vont être un peu plus récents. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la datation relative hein, pour le coup. Après, il y a d'autres moyens de dater de manière plus absolue, mais ça va être plutôt des méthodes chimiques, on va dire. Donc, comme je disais, il y a datation relative, datation absolue. Il y avait beaucoup de choses où c'était que des estimations, notamment sur le côté relatif. Donc c'était, on trouvait telle espèce dans telle couche et une autre espèce dans la couche au-dessus. Donc on sait que celui qui est dans la couche en dessous est plus ancien que celui dans la couche au-dessus. Vraiment par logique pure. Mais on n'avait pas forcément de date. Et en fait, il y a des méthodes en fait, qui ont permis, justement en faisant des petits forages dans certaines des couches, et ensuite en faisant... là c'est un peu plus compliqué, mais en gros c'est avec des isotopes en fait radioactifs qui vont se décomposer à une certaine vitesse, et du coup selon la quantité d'isotopes qu'il va y avoir en fait dans cette couche là, on peut déterminer plus ou moins l'âge en fait que ça a mis, le temps que ça a mis pour se dégrader, et du coup dire vraiment un âge chiffré en fait pour cette couche là. Donc du coup quand on a des couches où on connaît les fossiles, on sait qu'ils sont que dans cette couche là, et où il y a eu une datation absolue en plus, on peut donner un âge entre guillemets précis pour les fossiles qui sont dedans. Donc si on retrouve ces fossiles-là ailleurs dans le monde, qu'on reconnaît vraiment la couche en elle-même, on sait que ça aura plus ou moins le même âge. Après, justement, si on peut, on fait toujours le côté datation absolue. Mais c'est vrai que c'est un peu plus coûteux que de la datation relative. On essaie d'avoir toutes les informations qu'on peut. Si on a vraiment identifié l'espèce, on a une petite chance de retrouver au moins l'âge. Après, on n'a pas toujours les localités, mais dans la grande majorité des cas, on l'a quand même. Donc on sait d'où ça vient, quel âge ça a, quelle espèce c'est. Alors quelquefois, il faut remettre un peu à jour, parce que les noms sont plus toujours les mêmes utilisés maintenant. Mais voilà, il y a tout ce petit travail-là que nous, on va faire après, une fois qu'on a la pièce sous les yeux. Et quand on n'a pas les informations, bah, on note aussi qu'on n'a pas les informations. Et si on peut, on fait appel à des spécialistes qui, eux, vont venir en fait, voir les collections et qui, quelquefois, ont des connaissances que nous, on n'a pas du tout sur un groupe donné et où ils vont être capables, en fait, rien qu'en voyant la composition du fossile, le type de roche qui va le composer, la couleur que ça va avoir, de dire d'où ça vient. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez dur à faire, mais il y a quelques personnes qui sont capables de le faire selon les groupes.
Et demain, on s'intéresse aux fossiles un petit peu moins répandus, mais qui existent tout de même, les fossiles de végétaux. Rares mais existent et permettent de mieux comprendre l'évolution. On parle bien sûr des fossiles de végétaux.
On a tout un meuble en fait qui est rempli de ces collections-là et où ça va être des fossiles auxquels on n'est pas forcément habitué. Surtout que les plantes, c'est un peu compliqué au niveau classification, en tout cas fossiles, parce qu'on n'a pas toujours les feuilles avec le bois, avec les racines et ainsi de suite, ou avec les fruits quand il y en a. C'est généralement vraiment totalement séparé. Donc en fait, il y a une classification pour chaque type d'organe en fait dans les plantes. C'est-à-dire que, par exemple, pour les troncs, ça peut avoir un nom, et pour les feuilles, même si, au final, on découvre que, finalement, c'est la même plante, au premier abord, on ne le savait pas forcément, et du coup, on avait donné un autre nom à la feuille. Et pareil, s'il y avait un fruit qui pouvait peut-être y être associé, mais qui n'était pas attaché directement. Donc, en fait, il va y avoir trois noms, finalement, peut-être pour une même espèce. Mais après, on a des petits coups de chance où on va finir par trouver deux organes, en fait, vraiment en connexion, donc vraiment attachés l'un à l'autre, et on sait que c'est la même plante. Et auquel cas, là, on peut dire, bah, en fait, tel nom et tel nom, finalement, ça va ensemble. Mais généralement, on va quand même garder les deux noms d'origine aussi. On va avoir pas mal de choses. Après, c'est surtout des plantes du carbonifère qu'on va avoir, et notamment des fougères, beaucoup de fougères. Après, c'est pas forcément les fougères comme on les voit maintenant. Ça va être des fougères qu'on allait qualifier d'arborescentes, donc qui allaient vraiment avoir un vrai tronc sur lesquels il allait y avoir des frondes qui allaient se développer, les frondes qui ressemblent aux fougères qu'on a maintenant finalement. Mais les troncs pouvaient faire plusieurs mètres de hauteur, jusqu'à 8-10 mètres sans trop de problème à l'époque. C'est vraiment pas les fougères telles qu'on les voit là maintenant. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas les plantes à fleurs non plus. Elles n'existaient pas du tout, elles sont arrivées bien plus tardivement, au cours... du Jurassique Crétacé, fin Jurassique, début Crétacé apparemment. Les plantes à fleurs, elles existent toujours, elles ont pris même le pas en fait sur beaucoup beaucoup d'environnements actuellement. Par exemple, il y a 100 millions d'années, il n'y avait pas du tout les grandes prairies comme on les a maintenant, ça n'existait pas du tout. Ça c'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tardivement, plus autour de 40-50 millions d'années en gros. Les paysages étaient vraiment totalement différents. Si on prend par exemple le cas des plantes aquatiques, là actuellement on a des plantes à fleurs qui vivent dans l'eau douce, mais il y a plus de 100 millions d'années en gros, il y avait d'autres groupes de plantes sens large, qui allaient être présentes, et notamment des algues. Et ces algues-là, alors elles existent toujours actuellement, mais elles sont dans vraiment des niches actuellement, des endroits où il n'y a quasiment aucune concurrence avec les plantes à fleurs, parce qu'elles tiennent pas la tête aux plantes à fleurs, elles n'y arrivent pas. Et globalement, on va les retrouver dans des endroits soit très profonds avec très peu de lumière, très calme généralement, et avec très peu de nutriments. Parce que c'est des zones que les plantes à fleurs n'aiment pas. Bah, c'est en très grande partie grâce aux fossiles. On va étudier un petit peu le contenu par exemple d'une couche. On va voir que dans telle couche, on a quasiment que des fougères, très très peu de plantes à fleurs. Puis on voit que dans la couche juste au-dessus, bah, y a un peu plus de plantes à fleurs, un peu moins de fougères. Pour un même type d'environnement par exemple, un même type de roche qui reflète un même environnement. Et si on continue à monter, bah, en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de plantes à fleurs et de moins en moins de fougères par exemple. Donc ça peut être traduit directement dans la quantité de fossiles. Alors après, il y a plein de biais à prendre en compte, notamment la conservation de ces différents types de plantes, est-ce que ça peut jouer dessus ou pas, et ainsi de suite. À partir du moment où il y a vraiment un groupe qui est très 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 présent, d'un seul coup, ça se voit.
Et demain, pour ce dernier épisode, on va s'intéresser au métier de la conservation du patrimoine pour comprendre un peu mieux que ce que c'est de travailler dans une réserve de musée scientifique. Oh, as a girl, I didn't like myself that much. I wanted to be loved. I guess I lacked a common touch. I want to be loved. I'm Au total, entre 130 000 et 150 000 pièces bichonnées par Roch-Alexandre Benoît, assistant de conservation du patrimoine au musée, il revient sur son parcours professionnel.
À la base, moi, j'ai fait des études de paléontologie, enfin biologie puis paléontologie. Et en fait, moi, j'ai été recruté justement pour ces compétences-là, donc m'occuper vraiment de l'inventaire des collections paléontologiques. Et puis, petit à petit, du coup, on a commencé à rajouter des missions, un peu plus que l'inventaire, et du coup, essayer maintenant de faire des médiations, de faire des expositions autour de ça. Et puis, bah, finalement, vu qu'on n'est pas très nombreux dans la structure, on est obligé, nous, d'avoir un regard un petit peu sur tout ce qu'il y a en collection. Du coup, après, quand on a des objets, justement, qu'on ne connaît pas, qui font pas partie de nos spécialités, et ben, on va essayer de se renseigner un petit peu dessus, de faire des petites recherches, succincte, parce qu'on n'est pas des experts dans le domaine, mais voilà, on essaie d'avoir le plus d'informations possible sur ces pièces-là. Et d'où ça vient, de quelle époque, qui utilisait ça, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Moi, du coup, c'est à la base un groupe d'algues d'eau douce, les chérophytes. Et Jérôme, lui, du coup, c'est de la biologie, à la base. Donc, il a fait un DEA, c'était sur les vers marins. Du coup, lui, après, il a passé tout ce qui était concours, en fait, fonction publique, en conservation, pour pouvoir justement gérer les collections convenablement, et ainsi de suite. Et du coup, moi, je suis en cours. La finalité, ça peut être simplement de savoir ce qu'il y avait sous nos pieds, par exemple. Là, pour les minéraux, les fossiles, surtout les fossiles, c'est beaucoup de choses qui viennent directement de la Mayenne, qui ont plusieurs millions d'années, voire plusieurs centaines de millions d'années. Et des choses qui vont traduire en fait des environnements de cette époque-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand on retrouve des brachiopodes ou des oursins ou ce genre de choses-là, c'est que à cet endroit-là, à telle époque, il y avait la mer. Si on retrouve par exemple les plantes du Carbonifère, celles-là viennent de Saint-Pierre-la-Cour la plupart. Là, du coup, c'était déjà des zones hors de l'eau en fait. C'est vraiment là du continent, mais avec des grandes forêts, avec énormément de plantes et très très chargées. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vie à ce moment-là. Mais là, c'était hors de l'eau. Alors que juste quelques millions d'années avant, c'était sous l'eau. Et puis, en fait, quand on revient un peu plus tard, on va trouver, par exemple, encore des brachiopodes ou des oursins, ou ce genre de choses. Et là, c'est déjà un peu plus récent, mais en fait, c'est encore des organismes marins qui reviennent. Donc il y a eu plusieurs phases où la Mayenne a été sous l'eau, en fait. Toute l'histoire géologique et toute l'histoire environnementale, en fait, de la zone. À la base, moi, c'était mes petites algues, mais en fait, c'est vraiment juste... toutes les traces de vie, en fait, du passé, tous ces changements, en fait, comment ils sont intervenus, pourquoi, essayer de comprendre, en fait, ces choses-là. C'est vraiment ce qui m'a motivé, moi, à faire mes études à la base, puis à travailler ici. Il y a tellement d'informations qu'on n'a pas encore et qui sont intéressantes à voir, finalement. Donc après, c'est vrai que, pour le coup, on travaille le plus possible avec des chercheurs sur certaines des questions, parce qu'ils vont être plus spécialisés que nous sur certains domaines et pouvoir nous expliquer certaines choses, mais il y a vraiment énormément de choses encore à voir. C'est une tâche qui est interminable en soi, mais il y a des choses qui peuvent être mises en avant, des questions auxquelles on peut apporter quelques réponses en fait au fur et à mesure, petit à petit.
Family. Dog house. Family. Notre radio.
Heaven people so heavenly trapped. What comes first is the voice in your head. It's you. Yeah, you.
Cette semaine, on prend la direction de Quelaine-Saint-Gaud à la découverte de l'atelier Mayenne, un atelier de menuiserie et d'artisanat partagé qui vient d'être créé par Carole Claverol. Ouvert à tous, il permet de profiter d'outils et d'établis qu'on n'a pas forcément chez soi, le tout en autonomie, sous l'œil attentif et les conseils bien sûr de Carole Claverol. Elle nous fait visiter les lieux installés dans l'ancienne étable de la ferme familiale.
Alors on est sur un bâtiment qui fait 200 mètres carrés, donc on a divisé en trois parties. Donc une partie là 50 mètres carrés qui est plus cosy voilà, pour bricoler avec le chauffage quand il fait froid, donc on a mis un poêle à bois. Il y a des établis donc au milieu, donc un établi plus carré pour voilà, travailler plus ensemble. Si on est un petit groupe de 3-4, on se voit, on regarde, on échange. Des établis individuels pour ceux qui travaillent sur des projets personnels. Et puis, alors, on a des outils à main, donc des ciseaux à bois, des marteaux, des, voilà, des scies égoïnes, pas beaucoup parce qu'on utilise les scies circulaires, mais des scies japonaises ou des scies à dos qui sont pratiques. On a des rabots à main pour ceux qui veulent aussi s'essayer plus aux outils à main. Et puis, tout l'électroportatif. Donc avec visseuse, perceuse, voilà, des rabots électriques, des matériels que certains n'ont pas chez eux, qui est très pratique, c'est les lamelleuses, les défonceuses, et après tout ce qui est plus matériel d'atelier. Donc on a une scie à onglet très utilisée, scie à ruban, une ponceuse d'atelier aussi. C'est vrai qu'on retrouve des machines qui sont utilisées dans des entreprises, donc c'est quand même plus haut de gamme qu'en général ce qu'on achète pour soi à la maison. Après, voilà, il y a des choses qui ne sont pas aussi puissantes quand même que ce qu'on retrouve en entreprise, parce qu'il n'y a pas le besoin. Et il y a aussi donc, l'autre côté qui est plus dédié au travail du bois. Donc ça fait un petit peu plus de poussière, un petit peu plus de bruit. Donc j'ai un combiné bois qui fait dégo, rabot, et puis scie et toupie. La toupie, ce n'est pas encore utilisé, mais voilà, plus tard, pourquoi pas. Pour poncer, c'est aussi une partie voilà, de l'atelier qui est plus pour poncer, pour faire plus de poussière et de bruit. Et puis la troisième partie, c'est plus un garde-meuble. Donc comme il y aura de la restauration de meubles et des stages sur le relooking restauration, bah, il faudra garder les meubles d'une séance à l'autre et il faut de la place. Donc j'ai prévu aussi cet espace-là pour les stages. C'est très important dans un atelier partagé d'avoir un rangement pour chaque outil, parce que c'est vrai que les gens vont prendre et vont remettre, et en fait il n'y a rien de pire qu'arriver et ne pas trouver l'outil qu'on veut et mettre 5-10 minutes déjà à chercher ce qu'on veut. C'est une grosse part du travail, c'est l'organisation, le nettoyage, l'affûtage, enfin, ça fait partie voilà, de tout ce qu'il faut faire pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Et après j'ai une autre salle en fait qui est plus dédiée au travail autour du bois. Il y a aussi de la tapisserie d'ameublement qui va être proposée, il y a aussi de la poterie, il y a aussi de la, bah, plus tout ce qui est peinture, huile, enfin voilà. Il peut y avoir aussi peut-être plus tard du travail du cuir, de la laine. Enfin, j'ai envie que ce soit quand même ouvert à plusieurs artisanats pour apprendre plusieurs savoir-faire. Donc j'ai des salles un peu dédiées avec chacune leurs caractéristiques et puis leurs avantages et ne pas tout mélanger non plus.
Demain, on s'intéressera plus particulièrement au parcours de Carole Claverol et à l'origine de ce projet.
Moi, j'étais pas du tout dans le domaine. J'ai fait des études dans le commerce. J'ai fait un master commerce management, spécialisé plus dans le commerce international. Et je m'intéressais toujours au tourisme. Donc, finalement, en revenant en France après mes études. J'ai postulé au Gîte de France et puis donc j'ai travaillé 10 ans pour les Gîtes de France. Donc c'était très intéressant, riche aussi, parce que j'accompagnais les gens qui avaient des projets de gîtes et chambres d'hôtes. Il y avait une animation aussi pour les propriétaires. Donc c'était assez polyvalent. J'ai fait 6 ans donc, pour le département de la Mayenne et puis 3 ans pour le département du Maine-et-Loire. Et puis bah, voilà, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de changement. J'ai voulu travailler, apprendre à travailler manuellement. Donc j'ai passé mon CAP menuiserie fabrique en bois l'année dernière. Et puis pendant cette formation, j'ai pris plaisir à travailler le bois. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait apprendre à faire ça parce que c'est quand même utile au quotidien. Et je ne trouvais pas de lieu où je pouvais pratiquer. Donc il y a des choses qui sont faites pour les enfants. L'association L'Outil en Main, par exemple, c'est une super association, je trouve, pour les enfants, mais il n'y avait rien dans le style pour les adultes. L'idée est partie de là. J'avais le lieu. C'est important aussi d'être sur place pour ce genre d'activité parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc comme j'avais le lieu et je voulais aussi faire vivre le lieu, voilà, j'ai associé les deux. En fait, moi, j'ai toujours vécu ici. Mon père était agriculteur. On a racheté avec mon mari la maison, juste la maison en fait, quand on est revenu en Mayenne. Et donc, l'étable est toujours à mes parents et je leur ai demandé si je pouvais créer mon projet pour essayer dans leur, étable, si eux, ils n'avaient pas de projet dedans. On fait ça en famille aussi parce que mes parents m'aident beaucoup dans l'installation, dans les travaux. C'est un projet aussi familial un petit peu. Alors, ça fait presque un an parce que du coup, c'est au premier confinement qu'on a commencé les travaux. Voilà, c'est au premier confinement que je me suis dit, tiens, on a du temps. J'ai commencé à en parler à mon père et puis on a commencé à ce moment-là parce que du coup, moi, mes stages s'est arrêté en entreprise. Donc, j'ai voulu continuer à travailler quand même, à bricoler. Et puis, voilà, ça fait un an qu'on est dessus finalement et c'est pas encore fini. Puis, c'est bien de faire tout soi-même. On essaye d'utiliser au maximum les matériaux de réemploi. Je vais chercher à droite à gauche des chutes de bois dans les entreprises. Je regarde sur le bon coin pour acheter des choses d'occasion. Donc, ça prend du temps, mais c'est un autre plaisir. Et puis, on fait attention à l'investissement parce que, après, il faut un retour sur investissement.
Tant que cette menace du confinement n'est pas active, l'atelier Mayenne devrait ouvrir ses portes d'ici quelques jours. Demain, évidemment, le feuilleton continue. On va explorer un peu plus en détail quel public sera accueilli à l'atelier Mayenne et pourquoi. The commander, all of your worries are our bedtime stories. Like a blob mouth, nothing special, is it? L'atelier est accessible en libre service sur réservation, mais il y a aussi de nombreux stages qui seront proposés par des artisans. Explication avec Carole Clavreul.
J'ai un monsieur qui va venir pour fabriquer des nichoirs, un autre monsieur qui va venir pour s'initier au chantournage. Donc c'est bien, ça commence doucement et puis je mets en place beaucoup, beaucoup de stages. Je ne pensais pas avoir autant en fait, de retours positifs d'artisans qui m'ont vu dans la presse ou m'ont entendu à la radio et du coup m'ont contacté. Là, on découvre que les gens savent faire plein de choses. Il y a plein de pépites autour de nous. Et eux, ils ont envie de transmettre ça, mais ils n'ont pas forcément l'atelier chez eux. Donc moi, je m'occupe de l'organisation, des inscriptions, du matériel. Et eux, ils viennent, ils font le programme, ils animent. Donc c'est très complémentaire et c'est chouette, quoi. Donc ce qui est prévu, en tout début, il y a de la céramique. Alors les céramiques, le plus compliqué au niveau de l'investissement, c'est le four. Donc je n'ai pas investi dans un four. Là, je vais faire justement un partenariat avec une personne qui vient animer, qui ramène les objets chez elle, qui les cuit et qui les rapporte la deuxième séance pour faire l'engobe, c'est-à-dire les décors. C'est une première approche. La tapisserie d'ameublement, donc j'ai deux tapissiers, dont une qui va commencer ici en mars, donc pour refaire son Voltaire principalement, mais les gens qui ont un bridge, ils peuvent aussi venir. J'ai aussi du tournage sur bois qui est prévu pour avril. Et puis avec un menuisier, on est en train de mettre en place plein de programmes pour des assemblages sur bois, pour l'affûtage, le travail à outils à main, électroportatif. Enfin, c'est voilà, il y a plein de choses qui vont arriver pour le printemps et l'été. On voit quand même qu'il y a des gens qui fabriquent un petit peu et qui vendent un petit peu ce qu'ils fabriquent et qui font des ateliers. Mais souvent, ils ont leur atelier qui peut accueillir une personne. Donc, il peut y avoir des stages pour une personne, mais c'est vrai que ça revient à des stages en général assez chers. Alors que là, c'est des stages qui sont ouverts pour des groupes de 6, 4 à 6 personnes. Donc, quand on remet tout ça, c'est un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver en individuel. Puis eux, ils cherchent aussi à rencontrer du monde parce que souvent, les artisans, voilà, ils travaillent seuls toute la semaine. Et puis, ils sont bien contents à un moment donné d'échanger, de rencontrer des particuliers, d'autres artisans. Et puis, c'est riche pour tout le monde, en fait. Pour la première année, ça va être beaucoup de stages pour des débutants. Et puis, justement, au fur et à mesure, quelqu'un qui va venir, qui va s'initier, eh bien, il va avoir envie de continuer, approfondir. Et puis, au fur et à mesure, je pense qu'on va avoir des stages qui seront de plus en plus poussés, tout en gardant des stages pour les débutants. Le but étant de pouvoir répondre aux demandes de la maximum de personnes.
Demain, on poursuit évidemment cette série et la gérante reviendra sur sa passion pour le travail du bois et pourquoi surtout elle souhaite la partager. Fearful angel, so fearfully cool. Can't believe what has happened to you, can you? You fool.
Surtout les femmes, on veut faire des petites étagères à droite à gauche, on veut changer. Et je me suis dit, à chaque fois, en fait, quand je parlais de mon CAP, des femmes me disaient « Ah, moi aussi, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça ». Souvent, on faisait appel des fois à nos parents, à notre mari. Enfin, mais de, bon, voilà, les hommes ne sont pas tous bricoleurs non plus. Et puis, la parité, c'est aussi les hommes font la cuisine, mais les femmes font aussi bricolent aussi. Je sens que c'est une envie, et de plus en plus, parce qu'en plus, les gens là sont restés chez eux. Et les menuisiers, ils ont beaucoup, beaucoup de travail parce que du coup, les gens, ils veulent faire plein, plein de trucs chez eux. Et donc, c'est bien de faire appel pour des choses compliquées, évidemment. Faire appel à des professionnels, il faut faire. Mais pour des choses qui sont accessibles, le faire soi-même, c'est d'autant plus valorisant. On gagne en économie aussi, on économise. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Parce qu'il y a plein de choses, on a l'impression que c'est simple à faire, mais finalement, il faut respecter un ordre. Par exemple, rien que le débit et le corroyage pour avoir une planche, parce qu'on part du bois brut, et pour que les sections soient bien aux cotations du dessin, eh bien, il faut du coup faire une fiche de débit précise. Parce que si on se trompe à un moment donné dans la cotation, par exemple, on peut perdre du bois parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait un centimètre de moins et moi, je ne veux pas de gaspillage de bois. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de faire chaque acte pour bricoler, quoi. Ça demande beaucoup de réflexion, la menuiserie. On voit beaucoup d'ateliers do it yourself. J'avais envie d'aller plus loin que la plupart des ateliers qui se mettent en place. Les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que je veux que ce soit... les gens peuvent réaliser quand même des pièces assez importantes, en niveau grandeur, niveau technique. Enfin, il faut imaginer assez loin ce qu'on peut faire. Ça prend du temps, évidemment, par contre, il faut évaluer le temps. Mais oui, je veux que ce soit plus que la petite réalisation qu'on doit faire en 2 heures ou 4 heures. C'est pour ça que les gens peuvent revenir et revenir et stocker ici s'il y a besoin. Tiers-lieu, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. C'est un lieu où les gens vont se rendre entre le domicile et le travail, où ils vont se rencontrer, ils vont passer du temps. Donc là, j'ai quand même mis en place des espaces où les gens peuvent boire, manger, pour échanger, pour feuilleter un petit peu aussi les magazines. Autant dehors quand il fera beau avec des transats que quand il fait un peu moins beau, un salon à l'intérieur avec le baby-foot et voilà. Parce que puis là, il va y en avoir un besoin, parce que les gens qui sont restés isolés un petit peu chez eux, ils vont, à mon avis, prendre plaisir à retrouver du lien social. All of my anger shows I'm the commander. I'm the commander. All of my worries are my bedtime stories. Just a blob back.
des stages organisés régulièrement par d'autres professionnels, mais aussi et surtout une salle en accès libre avec tout le matériel nécessaire pour travailler le bois. Mais comment peut-on en profiter concrètement ? Réponse avec Carole Clavreul.
Sur février, j'ai mis des 3 jours dans la semaine, les mardis, les mercredis et les vendredis, de 10h à 18h. Et donc les gens peuvent s'inscrire en fait, alors minimum sur 2 heures. Donc ils prennent soit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, enfin le temps qu'ils ont besoin pour faire leur propre projet. Ou pour ceux qui n'ont pas de projet, qui veulent s'initier quand même à utiliser des machines, je donne des thématiques, ce que j'appelle les ateliers participatifs. Je donne des thématiques où je décris étape par étape ce qu'il faut faire pour fabriquer l'objet. Comme ça, c'est plus facile. Ça a la personne de tout faire de A à Z, mais c'est plus facile quand on a toutes les étapes dans l'ordre. Je mets des fiches et en fait, du coup, les gens, quand à un moment donné, ils bloquent, eh bien, ils viennent me demander bah là, comment on utilise telle machine ou alors bah là, pour comment on fait ça, quoi. Donc, je suis présente, mais le but, c'est que soit que les gens aussi se posent les bonnes questions et soient autonomes. Alors ceux qui ont du bois, qui veulent utiliser le bois parce que bah, pareil, ils ont récupéré des choses, ils peuvent utiliser leur bois évidemment. Après, on ne peut pas tout amener. Je ne veux pas qu'on travaille du mélaminé. Alors déjà, c'est parce que c'est un produit que je ne trouve pas très très noble. Il y a plein, voilà. Et en plus, bah, ça abîme les machines aussi. Enfin, il faut des lames spécifiques, donc je ne vais pas m'amuser à chaque fois à changer les lames. Donc ceux qui ont du bois, ils veulent le travailler, ils peuvent. Mais il faut me prévenir avant de ce que c'est. Sinon, voilà, moi j'ai plusieurs essences de bois, du bois local que j'achète en Syrie. Et c'est bien aussi, du coup, de découvrir les différentes essences. On se rend compte, en fait, de la couleur, de l'odeur. C'est l'objectif aussi du lieu, on se pose des questions sur l'essence qu'on va prendre. On peut faire des mélanges, des assemblages, des choses qui seront des pièces uniques, en fait. Avoir du noyer, du frêne, du châtaignier, c'est des bois qui sont un peu plus jolis, qui sont des fois un peu plus durs à travailler. Mais on est content d'avoir ce rendu. Quelaine, là, on est entre Laval et Château-Gontier, pile poil à 15-20 minutes des deux villes. Donc, je vis ce rayon-là, en fait. Les Lavallois, les Castro-Gontériens, tous les villages autour. Je vais parfois à un atelier qui est au Pont-de-Cé et un autre qui est à Rennes. Et franchement, faire 2 heures de route pour bricoler, c'est pas l'idéal. Donc, je pense que voilà, faire 1 heure de route, enfin une demi-heure aller, une demi-heure, c'est le grand maximum. Dans le concept d'atelier partagé comme ça, en fait, c'est vrai que il y en a de plus en plus. Quand j'ai un petit peu prospecté il y a 1 an, j'en voyais qui se développaient dans les villes. Strasbourg, Nantes, enfin, dans les grandes villes, il y avait des projets comme ça. Maintenant, je pense qu'à Laval, il y a aussi des ateliers partagés qui se mettent en place. Dans un lieu comme ça, non, c'est vraiment des choses différentes. Moi, c'est vraiment le lieu de vie avec différentes salles. Après, si c'est partager des outils avec des établis, oui, il y aura d'autres espaces et c'est très bien parce que du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait plein de lieux à se développer dans ce style-là pour que les gens prennent l'habitude. On est quand même beaucoup, beaucoup de Mayennais, donc c'est pas un atelier avec 5 établis qui va répondre à la demande. Donc plus il y en a, mieux c'est. Je pense que c'est dans le bon chemin. Tout ce mode de consommation est en train de se développer.
Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ateliermayenne.com tout simplement, avec les différentes activités proposées et contacts pour réserver.
Vous êtes sujet aux otites radiophoniques chroniques, l'autre radio à traitement générique est délivrée sans ordonnance et à consommer sans modération toute la journée.
Cette semaine, nous embarque dans les coulisses de Réauté à Château-Gontier et Saint-Fort. À quelques jours de Noël, c'est le moment de découvrir l'histoire et la fabrication des chocolats et biscuits dans l'entreprise créée à Château-Gontier il y a plus de 60 ans. On jette un petit coup d'œil dans le rétro avec Violette Huolmé. Elle s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
L'entreprise existe depuis 1954, donc à la tête avec nos fondateurs Roland et Madeleine Réauté, donc qui étaient boulangers-pâtissiers. dans le centre-ville. Donc la boulangerie est toujours en activité, mais on n'est plus les propriétaires. Après, les enfants ont repris l'activité en 1989 en travaillant avec des grandes épiceries fines, Édiard, Maxime, Fauchon, La Tour d'Argent. Et on a travaillé environ pendant une dizaine d'années. Et là, on s'est dit, ça serait bien d'avoir notre première boutique. Donc on s'est installé ici en 1998. C'est la première boutique. Donc elle s'est agrandie au fur et à mesure des années. Parce que les clients venaient, et ça a été des moments magiques. Il a fallu s'adapter également. Et maintenant, qu'on a toujours proposé des visites à nos clients pour connaître toujours notre savoir-faire, et on propose toujours nos visites. On crée également même des ateliers sucettes, moulage, écriture, afin qu'ils prennent conscience que le chocolat, on peut en déguster tous les jours. C'est un chocolat 100% beurre de cacao, sans huile de palme. Et puis on est fiers de nos chocolats. À ce jour, nous avons 59 boutiques. Donc effectivement, le procédé de fabrication, lorsque vous avez une boutique et 59, n'est pas du tout la même. Donc la fabrication a évolué. Nous avons un deuxième site de fabrication. La preuve, tout à l'heure, je vous parlais du chocolat lorsqu'on le reçoit. Ici, on le reçoit toujours en tablette de 5 kg, mais sur l'autre site, on le reçoit liquide. Donc forcément, c'est complètement différent. Également, nous avons commencé à 8 employés. Là, on arrive à 300 à travailler sous l'enseigne Rioté Chocolat. Donc j'englobe les bureaux, j'englobe la production et les magasins. Le croquant à l'anis existe, comment dire, depuis 1892, qui a été mis en place par les sœurs hospitalières de Château-Gontier au couvent des Ursulines. Et M. Rioté l'a racheté en 1975. Donc ce fameux biscuit, oui, il date, hein, ce fameux biscuit finalement, qui ressemble, comment dire, beaucoup à un hostie, avec la saveur anise, parce que l'anise a des vertus digestives. Et ça a été un petit peu le début avec nos grandes épiceries fines, quand les enfants ont été démarchés, Édiard, Maxime, Fauchon. Donc ce biscuit, il l'avait décliné en différents parfums. Et ça a été le début, et après on a enchaîné sur quelques chocolats, et après on a mis en place des galettes en juin, après on a mis en place les meringues, et on a accentué à chaque fois. Donc ça permet, comment dire, sur le site de Saint-Fort, d'avoir cet aspect biscuiterie et chocolat.
On va s'intéresser aujourd'hui à cette période si particulière pour eux, donc de Noël, et comment ça se traduit dans l'organisation qui emploie habituellement 300 salariés. Réponse avec Violette Huolmé, qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
On peut évoluer au moment de Noël, arriver à 400, 500, voire 600 employés. Donc on fait appel à des intérimaires, à des contrats à durée déterminée, pour que cette période se passe le mieux possible. On se prépare déjà, comment dire, il nous faut en magasin, il nous faut du personnel en plus. Il faut prévoir les chocolats en quantité suffisante. On travaille également avec les comités d'entreprise, des écoles. On essaye, donc vous avez beaucoup d'écoles qui veulent partir en voyage. Et là, on propose de les aider. C'est-à-dire, ils revendent nos produits et en fonction de leur vente, ils perçoivent, comment dire, un bénéfice, financer leur voyage ou autre. Effectivement, oui, il faut prévoir de la main-d'œuvre, comment dire, en production, en logistique, au niveau des transports. Et c'est une période qui est très, pour moi qui le vis depuis des années et des années, j'adore. On ne voit pas le jour, mais quand on voit les clients qui repartent ravis avec leurs colis, qui vont fêter Noël en famille, c'est la meilleure des récompenses. Avec une équipe, généralement, un esprit d'équipe qui est très agréable, on est tous dedans et on travaille. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, mais on fait des roulements et on s'aide les uns les autres. Exactement, parce que toute l'année, ils travaillent en deux journées. Et là, pour les fêtes de fin d'année, ils travaillent en 2-8. justement pour produire, pour que le consommateur puisse déguster leur chocolat préféré. Chaque jour, donc là on était, comment dire, sur journée, généralement on est environ sur 350 000 bonbons de chocolat. Arrivé, comment dire, à Noël, on arrive à 700 000 bonbons de chocolat, environ. Donc ça fait environ 60 millions de chocolats par an qui sont créés chez Réauté Chocolat pour satisfaire tous nos clients. Chaque année, on augmente la cadence de la production pour pouvoir avoir des magasins chargés en chocolat. Vous avez deux grosses périodes, donc Noël, pour nous la plus grosse période de l'année, et la deuxième, Pâques, qui est quand même la deuxième grosse période pour nous. Donc on est plus chocolatier, mais pendant toute la période, comme on dirait, estivale, on innove dans nos biscuits. Surtout cette année, on a innové avec... on est parti sur des biscuits salés pour l'apéro, parce qu'on sait que... Tout le monde aime prendre l'apéro, et avec des fameux biscuits, comment dire, saveur tomate origan. Là, vous avez vu la fabrication, comment dire, avec ail persil. Donc on le ressent bien. Tout à l'heure, j'étais en production et on ressentait bien l'odeur de l'ail qui était bien enivrant. Et après, on le propose avec différents produits de la maison, avec des tapenades, des rillettes et autres, que vous pouvez déguster à la maison sans problème.
Rassurez-vous, pas de traces de tapenade dans vos chocolats puisque les productions sont prévues le vendredi, le temps que les effluves s'en aillent pour le lundi. Demain, on s'intéresse au processus même de fabrication des chocolats. Aujourd'hui, puisqu'on va parler recettes de bonbons en chocolat et processus de fabrication, toujours en compagnie de Violette Huolmé qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables du magasin.
Par quelles étapes? Donc le chocolat, lorsqu'on le reçoit, après vous avez, nous on travaille toujours les intérieurs. Donc on va d'abord réaliser l'intérieur, soit comment dire, comme du praliné, amandé des noisettes avec du croustillant, donc le premier chocolat qui a été créé, les maillotes. Après vous allez avoir, comment dire, la deuxième étape, l'enrobage, et après, comment dire, le conditionnement. Ça, c'est plutôt les grosses étapes pour nous chez Réauté Chocolat.
Les chocolats qu'on peut trouver dans toutes les boutiques sont produits ici, en tout cas.
Exactement. Donc sur les deux sites à Château-Gontier, donc celui-ci de Saint-Fort dans un premier temps, et le deuxième qui se situe vraiment à 3 minutes de celui-ci, que vous pouvez voir direction Route de Laval. On les stocke, mais ils partent très très vite. Il faut savoir qu'on a, faut pas oublier que nous avons 59 boutiques, qu'on les livre toutes les semaines. Et comment dire, on livre un certain nombre de colis dans chaque magasin. Donc on les vend très régulièrement. Donc c'est vrai qu'à la fin de la saison de Noël, nos stocks sont très bas. Il faut reproduire justement pour la saison d'après. Donc non, ne vous en faites pas. Les clients sont gourmands, les Français sont gourmands, les étrangers sont gourmands, même si là actuellement... Avec la pandémie, on a beaucoup moins d'étrangers, mais on compte sur les Français. Tous nos ingrédients, on essaie, comment dire, d'aller au plus proche pour la farine, pour les œufs, faire vivre nos producteurs locaux également. Et oui, on veut garder cette origine, d'une part parce que les clients nous le réclament, parce que lorsqu'on est en rupture, on se fait taper sur les doigts, faut pas croire. Donc on a obligation d'avoir nos produits phares. Ouais, nos clients l'exigent. On a toujours nos incontournables. Donc le premier chocolat qui a été créé par Roland et Madeleine Réauté, donc le Maillotte, malgré tout c'est un incontournable. Vous avez les carrés feuilletés, donc c'est le deuxième chocolat, et les carats. Ça c'est les trois inconditionnels. Après vous allez retrouver un chocolat à base de caramel, les caramels beurre salé, donc texture fondante. Vous allez avoir nos fameuses truffes pour Noël. On a créé des nouveaux chocolats à base d'alcool, le muscadine. avec de l'orange et du Cointreau. On essaye d'innover, comment dire, chaque année nous avons une vingtaine de produits qui arrivent dans nos boutiques, que ce soit en chocolat et en biscuit. On a un service recherche et développement qui crée tous les produits régulièrement en fonction des fameuses tendances également pour les réaliser. Donc oui, ils sont vraiment très compétents et sont toujours à l'affût de la dernière nouveauté.
Dernier épisode de notre série Demain sur l'évolution de l'entreprise. L'entreprise basée à Château-Gontier-sur-Mayenne a été rachetée en 2015 par le groupe Buton, puis c'est au tour de Montbana, une autre chocolaterie installée en Mayenne, à Ernée précisément, d'intégrer ce groupe, quitte à créer une concurrence entre les deux entreprises. Aucun risque, selon Violette Huolmé, qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables de magasins.
Chez Montbana, vous avez une boutique sur Laval. Ils en ont plusieurs en France, effectivement, mais on n'est pas du tout sur le même créneau, finalement. Nous, on est vraiment situés dans des zones commerciales, avec la politique du sachet de 100 grammes, pour avoir un très bon rapport qualité-prix sur ce produit, parce qu'on est sur une base de 33 euros le kilo pour nous incontournables. Par contre, chez Montbana, ils ont plus des chocolats et des napolitains, donc enveloppés pour aller avec le café. Ils sont spécialisés également dans le chocolat en poudre, et également, ils ont une gamme de bonbons de chocolat pour réaliser leur balotin. Donc effectivement, on a chacun notre propre identité. Nous avons été rachetés en 2015 et ce même groupe a racheté l'autre chocolaterie chez Montbana. Chacun continue, comment dire, comme il était auparavant, de créer ses propres chocolats. Toujours d'innover, mettre des magasins en place, en franchise ou en succursale. On avait un objectif, c'est d'avoir une centaine de boutiques en France. Donc on va continuer nos projets après cette fameuse pandémie. J'espère qu'il va s'arrêter très vite pour pouvoir reprendre un petit peu et toujours créer des nouveautés pour nos clients. Innover également dans nos packaging, dans nos produits, c'est ce qu'on souhaite. Que le client, lorsqu'ils viennent au magasin, ça soit toujours un univers magique pour eux et de découvrir toujours de très belles choses, des nouvelles choses. Bah avec le confinement, oui, forcément, c'est tombé à Pâques. Donc forcément, on a mis en place le drive très rapidement pour justement pouvoir un peu écouler nos stocks. Là, c'est vrai qu'au retour depuis le 11 mai, les magasins étaient ouverts en permanence. On a pu voir que nos clients, finalement, revenaient au magasin et justement profitaient également de pouvoir déguster davantage de chocolat. On a passé de très belles fêtes, de fêtes de mère, de fêtes des pères, de la fin des classes. Les maîtresses, elles n'ont jamais été aussi gâtées que cette année. Faut dire, elles ont fait un travail remarquable. Donc du coup, les parents les ont, entre guillemets, à récompenser avec nos chocolats, nos biscuits. Donc pour nous, non, les clients reviennent, puissent déguster, ils sont vraiment très ravis. Et nous, on est très ravis de les revoir, surtout.
C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux agités du mois.